Merci d'écouter RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Bruno Faure.
Bonsoir à tous et bienvenue pour ce journal en français facile que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Bruno, bonsoir à tous.
À la une de ce journal, l'Allemagne encore touchée par une attaque apparemment terroriste contre un festival de musique dans le sud du pays. L'homme qui s'est fait exploser serait lié à l'organisation État islamique. Dans un instant, les explications de notre spécialiste David Thompson.
Les djihadistes qui ont revendiqué un terrible attentat avant-hier à Kaboul en Afghanistan. L'ONU parle d'un début d'année 2016 particulièrement meurtrier dans ce pays.
C'est parti pour la convention de Philadelphie, la grande réunion du Parti démocrate. Aux États-Unis, elle doit lancer la campagne d'Hillary Clinton pour la présidentielle du mois de novembre.
Et puis, à 10 jours des JO de Rio, certains logements pour les sportifs ne sont pas terminés. Les Australiens ont décidé d'aller plutôt à l'hôtel. Nous appellerons notre correspondant au Brésil.
Le journal en français facile.
Il était syrien, il avait 27 ans, il est l'auteur d'un nouvel attentat. En Allemagne, il a blessé au moins 15 personnes hier soir qui assistaient à un concert. Certaines sont gravement touchées. Une attaque revendiquée quelques heures plus tard par le groupe État islamique. Les précisions de David Thompson.
Une revendication en plusieurs langues diffusée sur Internet par son canal habituel, l'agence Hamak. Quelques minutes avant, le ministre allemand de l'Intérieur venait d'annoncer que l'auteur de cet attentat suicide avait prêté allégeance au groupe État islamique d'après une vidéo retrouvée sur son téléphone portable. Le kamikaze a, semble-t-il, raté son attaque. Ce réfugié syrien de 27 ans s'est fait exploser hier soir près d'un festival de musique organisé à Ansbach, une petite ville de Bavière dans le sud de l'Allemagne. Le terroriste, présenté comme un de ses soldats par l'EI, a tenté de rentrer dans ce concert mais s'est fait refouler. Il a donc actionné son explosif à l'extérieur devant un restaurant, ne tuant que lui et faisant 15 blessés. Il était en Allemagne depuis 2 ans, s'était vu refuser une demande d'asile. C'est la deuxième attaque revendiquée par l'EI dans ce pays. La semaine dernière, un autre migrant pakistanais de 17 ans, cette fois, avait blessé ces 5 personnes à coups de hache dans un train, toujours au nom de l'État islamique, avant d'être abattu par la police.
David Thompson, et puis le pays d'où venait le terroriste, la Syrie, est en guerre et la situation humanitaire y est catastrophique.
Notamment dans la grande ville d'Alep, dans le nord, tout près de la frontière avec la Turquie, les rebelles affrontent depuis des années l'armée du régime de Bachar al-Assad. Beaucoup de civils n'ont plus de nourriture ou de médicaments. Les Nations Unies demandent une trêve, un arrêt des combats chaque semaine, pendant 2 jours, le temps de ravitailler les populations qui sont prise au piège de ces bombardements. La France demande aussi un cessez-le-feu. Avant-hier, plusieurs hôpitaux de la ville d'Alep ont été bombardés par les avions de l'armée syrienne qui sont aidés par la Russie.
Les civils sont aussi les victimes de la guerre en Afghanistan. L'ONU fait un bilan terrible du début de cette année 2016. Notre correspondante à Kaboul, Mélanie Kominek.
5000 victimes recensées en Afghanistan depuis le 1er janvier 2016. Voilà les chiffres préoccupants que la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan a publié ce matin. C'est un bilan en hausse de 4% par rapport à la même période 2015. Et ce sont les enfants qui en payent particulièrement le prix fort, avec un tiers des morts et blessés. Ce rapport est publié 2 jours après qu'un double attentat suicide revendiqué par l'organisation État islamique a fait 80 morts et plus de 230 blessés à Kaboul. C'est l'une des attaques les plus meurtrières que le pays ait connues depuis 2001. Selon le secrétaire général de l'ONU à Kaboul, les gens sont tués pendant qu'ils prient, travaillent, étudient et sortent de l'hôpital. Une phrase qui en dit long sur la dimension humaine que l'ONU souhaite redonner au conflit, souvent étouffé par des chiffres toujours plus alarmants. Il faut dire que depuis le retrait massif des forces de la coalition internationale en 2014, la situation s'est nettement dégradée dans le pays. L'ONU accuse les forces insurgées, principalement les talibans et l'État islamique, d'être responsables de la grande majorité de ces victimes. Mélanie Kominek, Kaboul, RFI.
Des Afghans, des Irakiens, des Syriens, des Iraniens, des migrants arrivés en Europe ces derniers mois grâce à un réseau de passeurs aujourd'hui démantelé, détruit.
C'est la police autrichienne qui annonce avoir réussi à arrêter 17 suspects, une centaine de policiers. policiers ont été mobilisés pour cette opération en Autriche, mais aussi en Allemagne et en Hongrie, le pays où ces migrants devaient payer beaucoup d'argent, des centaines ou des milliers d'euros pour aller en Europe de l'Ouest. De l'argent a d'ailleurs été saisi, mais aussi des armes.
En Turquie, le pouvoir arrête des journalistes.
Des mandats d'arrêt, des autorisations pour la police ont été lancés pour 42 journalistes. Ils sont accusés d'être des ennemis parce qu'ils critiquent le gouvernement. Des militaires et des professeurs ont aussi été arrêtés, toujours en réaction après le coup d'État d'une partie de l'armée qui a été tentée il y a 10 jours. Mais en même temps, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a commencé à discuter avec des chefs de l'opposition, ceux qui l'ont soutenu après ce coup d'État manqué.
Le président français, lui, veut la vérité après l'attentat de Nice le soir du 14 juillet.
François Hollande dit que c'est la justice qui doit établir, faire sortir la vérité et personne d'autre. Il réagit à la polémique lancée par une policière de la ville de Nice, celle qui était chargée des caméras de surveillance sur les lieux de l'attentat. Cette jeune femme accuse le ministère de l'Intérieur, le gouvernement, d'avoir fait pression sur elle, de l'avoir appelé plusieurs fois au téléphone. Des personnes lui auraient demandé de mentir sur ce qui s'est passé, d'envoyer un rapport, un document qu'on pourrait modifier plus tard. Des accusations très graves rejetées par le Premier ministre, mais la policière a décidé de saisir la justice.
Il est 16h et bientôt 7 minutes à Philadelphie, dans l'Est des États-Unis. C'est l'ouverture de la convention démocrate pour la présidentielle dans une ambiance étrange, Bruno.
Tout le monde ne soutient pas forcément Hillary Clinton, la candidate qui va être désignée par cette immense réunion. Certains lui préfèrent encore Bernie Sanders, son adversaire pendant les primaires dans ce parti démocrate. Elle va devoir convaincre. Sur place, notre envoyée spéciale, Anne-Marie Capomaccio.
Pour Hillary Clinton, l'investiture démocrate attendue demain est l'aboutissement d'une carrière et de 10 ans d'efforts qui portent enfin leurs fruits après l'amère défaite de 2008 contre Barack Obama. Les primaires furent plus disputées que prévu contre un Bernie Sanders qui a enthousiasmé les jeunes les plus défavorisés et l'aile gauche du parti. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles le sénateur du Vermont s'exprimera dès ce soir afin de motiver les derniers récalcitrants, et cela ne sera pas simple. Bernie Sanders, qui a négocié pied à pied le programme démocrate et obtenu l'intégration de nombreuses promesses sur les dossiers sociaux notamment. Hillary Clinton va désormais faire face à un adversaire républicain qui a prouvé que tous les coups sont permis. Le seul point commun entre les deux candidats est leur impopularité. L'ancienne secrétaire d'État ne s'est pas débarrassée de l'affaire des emails, du serveur privé et du dossier Benghazi. Elle souffre d'un déficit d'intention de vote auprès des hommes blancs, un handicap que son colistier Tim Kaine a pour mission d'aider à surmonter. Anne-Marie Capomaccio, Philadelphie, RFI.
Et à l'autre bout des États-Unis, en Californie, un très grave incendie de forêt.
Ça arrive souvent, Zéphirin. Pendant la période de l'été, quand il fait chaud et très sec, depuis 3 jours, près de 10 000 hectares ont déjà brûlé. Ça fait à peu près 14 000 terrains de football. Le feu traverse les montagnes et les vallées. Des milliers d'habitants ont dû quitter leur maison.
Et puis on le disait, à Rio, tout n'est pas prêt pour accueillir les athlètes des JO.
Pourtant, ces Jeux Olympiques débutent dans 11 jours maintenant. Au village olympique, là où doivent être logés la plupart des sportifs, les travaux ne sont pas terminés. Certains, comme les Australiens, préfèrent aller habiter ailleurs, Martin Bernard.
Le village olympique, ce sont 31 tours de 17 étages, toutes neuves, construites pour les JO. Mais quand ils ont ouvert la porte de leurs appartements, certains athlètes ont remarqué des infiltrations, des problèmes électriques, des fuites de gaz ou même un manque d'hygiène. La délégation australienne a fait demi-tour et a préféré rester à l'hôtel. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, l'équipe féminine de football de la Suède est aussi hébergée à l'hôtel. D'autres délégations, comme celle des États-Unis et de l'Italie, payent en revanche des plombiers et des électriciens de leur poche pour que les appartements soient en condition de recevoir des champions olympiques. De son côté, le comité organisateur a mobilisé 500 personnes pour régler tous les problèmes de logement d'ici jeudi. Un sérieux couac que le maire de Rio a toutefois tenté de minimiser sur le ton de la plaisanterie. Edward Pice a ainsi suggéré de mettre un kangourou dans le village olympique pour que les Australiens se sentent chez eux. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Et en plus, il y a les affaires de dopage avec les Russes. Chaque fédération, chaque sport doit décider lesquels ont le droit de participer. 7 nageurs sont ainsi exclus, dont Yulia Efimova, qui a eu une médaille aux Jeux de Londres en 2012. Elle va faire appel, elle va contester cette décision devant le tribunal arbitral du sport. Merci à vous d'avoir suivi ce journal en français facile. Bonne journée ou bonne soirée sur RFI. Merci Zéphirin.
Merci Bruno.